vous parler de la croix, de sa mort à la croix et les conséquences pratiques.
Très bien. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes à travers elle. Merci parce que tu nous donnes des prédicateurs qui peuvent nous l'expliquer. Je te prie que tu sois avec Michael ce matin, comme tu as été cette semaine pendant qu'il préparait. Je te prie que tu sois avec nous alors que nous l'écoutons et que par ton esprit, tu nous touches. Au nom de Jésus, amen. Amen.
Alors, si vous voulez suivre un peu la prédication pour les ados ou les grands ados, il y a une fiche qui est à l'entrée sur la table là. C'est le « Qu'est-ce qu'il a dit ?». Et donc, je les ai laissés exprès là-bas pour que vous puissiez vous lever. Ça vous fait marcher, ça vous dégourdit les jambes. Donc, n'hésitez pas à vous lever. Et si vous êtes grand ado et très, très grand ado, vous avez aussi le droit de vous lever pour prendre une de ces fiches. Voilà. Donc, sentez-vous à l'aise de vous lever pour prendre cette fiche. Il y a des Bibles qui sont à côté. Si vous n'avez pas, vous aussi suivre la prédication et le texte, ça sera sur la page 934. C'est pour les éléments qui peuvent vous aider à suivre. N'oubliez pas, surtout les questions à la fin, vous devez noter mon look. Donc, n'hésitez pas. Si c'est trop négatif, hésitez à venir m'en parler. Voilà. On a écouté le récit de la résurrection de Christ. Mais c'est gentil, il est ressuscité. Mais pourquoi il est ressuscité? Pourquoi cette résurrection est-elle possible? C'est bien beau de le dire, mais pourquoi il peut ressusciter? Par sa mort, Christ satisfait pleinement la justice de Dieu. La croix montre pleinement l'amour de Dieu pour nous. La croix n'est pas un simple événement dans la vie, dans l'histoire. C'est l'élément fondamental de la foi chrétienne. Et puis, si on regarde ceux qui s'opposent au christianisme, très souvent, ils vont essayer de détruire le message de la croix. Soit en disant que ce n'était pas vraiment Jésus qui était sur la croix, on l'a échangé. Soit Jésus s'est évanoui et en fait, c'est pas vraiment, il a pu sortir du tombeau. Soit c'est Judas. Bref, plein de théories, plein d'idées pour essayer de nous montrer que Jésus n'est pas, que c'est pas le vrai Jésus, le même Jésus qui est mort et ressuscité. Et même les chefs religieux, si on lit dans l'évangile selon Matthieu, avant même que Jésus ressuscite, ils vont mettre un bus de CRS devant le tombeau pour pas que des gens, les disciples, viennent ouvrir ce tombeau. Et quand, manque de bol, Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer les gardes pour les faire taire. Alors que les gardes, ils ont vu un ange, j'ai vu des trucs assez bizarres, extraordinaires. Dès le début, l'élément de la croix est remis en cause et ne veut pas être proclamé. Et peut-être que le terme que j'ai étudié exprès, satisfaire, choque vos oreilles. Jésus satisfait pleinement la justice de Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste et il condamne le péché. Il ne veut pas vivre, cohabiter avec le péché. Mais aussi, et c'est peut-être un élément à avoir en tension, peut-être, du mal à comprendre, il est pleinement amour. Et parce qu'il est plein d'amour, un amour débordant, il va trouver une solution. Il a une solution, plutôt. Il se donne lui-même à la croix. Ce n'est même pas un substitut, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne va pas envoyer quelqu'un au casse-pipe. Non, c'est Christ, c'est Dieu lui-même qui se donne à la croix. Il satisfait à la fois sa justice et son amour. Et si vous lisez les évangiles, vous allez voir que Pilate a condamné Jésus par lâcheté. Les chefs religieux ont condamné Jésus par jalousie. Judas a condamné Jésus pour de l'argent. Les disciples ont abandonné Jésus à la croix. Jésus était seul. et nous ne sommes pas tellement différents d'eux. Nous sommes aussi coupables devant Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous propose cette réconciliation ensemble. À la croix se rencontrent à la fois la justice de Dieu et son amour. À la croix, Dieu rétablit cette harmonie qui était perdue entre nous et lui, entre nous tous ensemble et en nous-mêmes. La croix permet tout ça, la réconciliation. Comment pouvons-nous affirmer que la mort du Christ montre que la justice de Dieu est accomplie et que son amour est pleinement là? Son amour nous montre qu'il veut être en relation avec nous. Et je vous invite à lire ensemble le texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, des versets 45 à 55. Donc, je rappelle, la page 934. Je vous invite à imaginer la scène, à vous rendre compte un peu des éléments. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani !» Ce qui veut dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent, « Il appelle Eli !» L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il le boive. Et quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment-là, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchire en deux. La rochelle se fend. Les tombes s'ouvrent. Et le corps de beaucoup d'hommes fidèles qui étaient morts ressuscite. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Beaucoup de personnes virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Comment on peut être certain que la mort de Jésus montre que la justice et l'amour de Dieu sont satisfaits et permettent la réconciliation et la victoire sur la mort? Et je vous propose de regarder quatre événements, quatre phénomènes qui ne sont pas là par hasard, et je dirais même quatre signes. Vous avez peut-être décelé deux. Le premier, c'est les ténèbres ou l'éclipse. Le deuxième, c'est le voile du temple qui se déchire. Le troisième, c'est le tremblement de terre. Et le quatrième, un lâcher de ressuscité. Commençons par le premier, les ténèbres. À partir de midi et jusqu'à 3 heures, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Une éclipse totale est un phénomène assez rare. Et d'après Wikipédia, il ne peut pas durer plus de 7 minutes et 40 secondes. Là, il a duré 3 heures. Les ténèbres sont apparues quand Christ prend le poids de notre condamnation, du péché. Et il va dire d'ailleurs, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri du juste, injustement persécuté. Le cri du juste, injustement persécuté. Et désormais, ce n'est plus aux mains des hommes que Jésus souffre. C'est de Dieu, c'est son Père. Ils se sont abandonnés. Il a souffert nos souffrances, notre séparation, notre péché. Et les ténèbres se dissipent 3 heures après, quand Jésus pousse un deuxième cri. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une référence aux plaies d'Égypte. Je ne sais pas, vous vous souvenez combien il y en a? 10. La 9e. Petit quiz. C'était laquelle? Les ténèbres? Ouais. Et pourquoi Dieu envoie des plaies, des fléaux à l'Égypte, à Pharaon, comme jugement? Les plaies d'Égypte sont un signe de jugement. L'obscurité est un signe de jugement divin sur le péché. Les ténèbres qui règnent sur Jérusalem, la nouvelle Égypte, témoignent que la terre crucifie son Seigneur. Je dis que c'était l'avant-dernière, la 10e. C'est la mort de tous les fils premiers-nés. Qu'est-ce qui se passe après ? Jésus, le fils premier-né du Père, meurt. C'est la 10e plaie, la plus dure. Et Calvin, il écrit que c'est un spectacle plein de frayeurs dans le but de montrer le jugement de Dieu et de montrer que le seul moyen du pardon ne pouvait être qu'en son fils unique et en rien d'autre. Les ténèbres manifestent que Jésus a pris sur lui la condamnation pour nous réconcilier. Et ainsi, il démontre l'amour de Dieu et sa justice. Deuxième signe. Le voile. On a déjà parlé dans les semaines précédentes en quoi le voile, quelle était la symbolique du voile. Alors, pas du voile sur la tête. Je parle de voile dans le temple. Et on voit dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse, donc Genèse 3, jusque après la mort de Jésus, les personnes n'allaient pas dans le temple comme ça, facilement. Il y avait seulement les prêtres qui pouvaient aller dans le temple, et dans la première partie du temple, dans le lieu saint, et le grand prêtre, lui pouvait aller dans le lieu très saint, une fois par an. Et après avoir accompli des actes des sacrifices, de purification, de pardon, de demande de pardon des péchés. Et ces deux espaces sont séparés par un immense voile bien épais, très opaque, bien fermé. Et à la mort du Christ, ce voile se déchire. Et ça nous montre que la séparation entre Dieu et les prêtres n'a plus lieu. À la mort de Jésus, à la croix, l'accès à Dieu n'est plus une fois par an, mais tout le temps. La gloire de Dieu n'est plus cloisonnée au temple, mais elle est libérée. Dans l'Exode, on voit que le temple est rempli de la gloire de Dieu. Et cela nous montre aussi qu'il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. L'ancien système est aboli. Le véritable sacrifice apaisant la colère de Dieu contre notre péché est désormais offert en Jésus. La mort des animaux dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Système, était une préfiguration de la mort de Christ. Et Jésus, puisqu'il était un homme, peut payer à la place des hommes. Jésus, puisqu'il est Dieu, peut payer, peut satisfaire la justice de Dieu. Jésus, puisqu'il est juste, n'a pas besoin de payer pour ses propres péchés. Il peut donc payer pour ceux des autres. À la croix, il y a un réel échange, une réelle substitution entre Christ et nous. On verra tout à l'heure pour ceux qui sont en lui. Si ça vous paraît un peu obscur comme présentation, je vous propose une autre façon de voir les choses, un autre exemple. Le rideau était fermé à clé. Et la seule clé pouvant ouvrir ce rideau étaient les sacrifices. Mais là, on voit qu'il n'y a plus besoin de sacrifier des animaux, donner de l'argent, de la nourriture pour être dans la présence de Dieu. Le sang du Christ, Christ, déverrouille pour toujours ce rideau. Il nous donne ce libre accès. C'est lui la clé. Il n'y a pas d'autre clé. C'est la seule clé qui existe. Et la déchirure de ce rideau nous montre, ce signe nous montre que Christ satisfait la justice de Dieu et son amour en se substituant à nous. Le troisième phénomène, troisième signe, le tremblement de terre. Et je vais être très rapide sur celui-là. Dans l'Ancien Testament, quand il y a un tremblement de terre, c'est pour manifester souvent la présence de Dieu. Et par ce tremblement de terre, Dieu montre qu'il est présent à travers ces événements. Les observateurs peuvent voir que Dieu est là. Il y a des phénomènes. Dieu est présent par ce tremblement de terre. Et le quatrième, un lâcher de ressusciter. Quand on lit rapidement, ça peut paraître normal, mais c'est assez étrange comme phénomène. Des tombes s'ouvrent quand Jésus meurt. Et ces hommes, donc ces tombeaux des hommes fidèles à Dieu, ces hommes sortent aussi de leur tombeau quand Jésus ressuscite, au verset 52. On a un lâcher de ressusciter dans la ville. Le retour des morts vivants. Ou d'autres films que vous connaissez peut-être, que je ne connais pas. Et je vous propose de relever deux points. Premier que j'ai déjà dit, ce ne sont pas tous les hommes qui reviennent à la vie, mais seulement les hommes fidèles à Dieu. Et ce n'est pas anecdotique. Et la résurrection a lieu quand Jésus ressuscite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'observation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je propose quelques pistes d'interprétation, de compréhension. Cet événement préfigure, nous montre par avance que la résurrection finale dans la Nouvelle Jérusalem, lors du retour de Christ, est efficace. Ça nous donne une espérance pour nous dire, nous ressusciterons aussi avec Christ au dernier jour. Ça nous montre que la mort de Jésus permet déjà de libérer les hommes du poids de leur faute, de leur culpabilité, de leur péché, mais seulement ceux qui ont été fidèles à Dieu. Et puis, on a un témoignage par ces hommes ressuscités de ce que Dieu a fait. Dans ce signe, la croix est le signe de la victoire sur la mort. Et c'est là que j'arrive à deux conséquences pratiques. Qu'est-ce que ça change? On l'a un peu évoqué. La croix, c'est la victoire sur la mort. La mort est morte. La mort est morte à la croix. Peut-être qu'aujourd'hui, la mort, ça ne vous parle pas très bien. Elle n'est pas présente. Et juste pour vous montrer aussi à travers l'histoire, rien qu'au XVIIe siècle, donc là, on était au siècle 1, au XVIIe siècle, la mort était très présente. L'espérance de vie était de 25 ans. La moitié des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans. Au XVIIe siècle. Aujourd'hui, la mort nous paraît très loin. Et je lisais que, par exemple, les mourants ne mouraient plus à domicile, mais beaucoup dans les hôpitaux, maintenant. Certains éloignent cette vue de la mort. Aujourd'hui, cette semaine, on parle de la fin de vie. Alors peut-être que ça passe inaperçu dans l'actualité, mais dans l'actualité, cette semaine, il y a la question de la fin de vie. L'idée derrière, il me semble, c'est de mourir aussi seul, sans être un poids pour les autres, loin du regard des familles. On éloigne cette mort. Le transhumanisme, l'idée de faire en sorte que l'homme ne puisse pas mourir. Mais en fait, la mort est toujours présente. Nous ne voulons pas la voir. Nous ne voulons pas y faire face. Est-ce qu'y faire face, qu'est-ce que ça veut dire? ça nous pose des questions sur nous-mêmes, sur notre finalité, sur Dieu, la création. Et la mort nous scandalise. Et nous trouvons qu'elle est injuste. Et c'est oui, la mort est injuste. Et la mort, c'est nous qui sommes injustes. C'est totalement injuste de notre part de ne pas vouloir Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes éloignés des plans de Dieu, de la volonté de Dieu. Et Dieu, qui est juste, propose de vivre avec toi pour toujours. On a vu que la clé, c'est Jésus. Ça peut paraître rapide. On a vu dans les dernières semaines que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père, le but c'est d'aller au Père, si ce n'est grâce à lui. La mort n'a plus d'emprise sur les hommes fidèles à Dieu. Et Dieu est juste en condamnant le péché à la croix. Et Dieu est juste en sauvant ceux qui lui font confiance pour être réconciliés avec lui, entre eux et avec eux-mêmes. Et John Stott, un théologien, un frère qui est mort, il a écrit « La croix, c'est la victoire remportée. La résurrection, la victoire reconnue, annoncée et démontrée. La croix n'est pas une défaite. La mort est bien morte. » Deuxième conséquence, c'est que la croix change les regards. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu. » Les gardes, ce sont ceux qui ont fouetté Jésus, qui l'ont maltraité, qui l'ont craché dessus, qui ont mis une couronne d'épines, qui se sont moqués de lui en disant « Va voir si Dieu va te délivrer. » Et là, ils sont saisis d'une grande crainte. Ces gardes, ce sont des païens, des non-juifs. Ces gardes disent maintenant, il est vraiment le Fils de Dieu. C'est ce que l'auteur veut nous aider à comprendre. Ce sont maintenant des païens, des étrangers au peuple de Dieu qui se tournent vers lui à cause de ce qu'ils ont vu à la croix. La croix change les regards. Oui, Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le représentant de son peuple, le roi envoyé par Dieu, le Seigneur auquel nous devons nous soumettre et à qui nous devrons rendre compte. Jésus est vraiment le roi envoyé, le roi par excellence. Depuis septembre, nous prêchons l'imperfection des juges puis des rois dans l'Ancien Testament. Par exemple, je vous avais parlé de Samson qui avait commencé à délivrer le peuple. Mais le roi à venir, il est là. Il délivre pleinement le peuple. Nous avons vu à travers l'évangile de Jean la description du vrai roi à travers les sept « Je suis ». Par l'attitude de ses gardes, on voit qu'il n'y a pas moyen de se dérober. Les gardes doivent prendre position devant la puissance de Dieu. Il faut se décider. Dans l'évangile de Jean, le dernier cri de Jésus nous l'a dit aussi, que Jésus dit « Tout est accompli. » C'est fini. Tout est accompli. Une nouvelle dimension s'ouvre. Plus besoin de sacrifice. Plus besoin d'aller au temple. It's over. C'est pas ça, comme ça qu'on dit en anglais. En anglais auvergnat. C'est terminé. Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est accompli? Il y a deux types de chrétiens. Ceux qui font ce qui plaît à Dieu et ceux qui font ce qui plaît à Dieu. Mais en fait, la différence se trouve dans la motivation. Certains vont faire ce qui plaît à Dieu pour faire infléchir Dieu, le soudoyer, acheter quelque chose auprès de lui. Et ces personnes-là sont souvent dans la crainte. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que Dieu va m'accepter? Est-ce que j'ai apaisé sa colère? Est-ce que j'ai accompli sa justice? Leur humeur, du coup, va être dépendante de ce qu'ils ont pu faire pour Dieu. Voilà le premier type de chrétien. D'autres vont le faire par amour, par reconnaissance. Et ils sont dans la joie. Et leur humeur ne change pas ou peu en fonction des événements. Et souvent, nous voyageons entre ces deux attitudes. Un acte un peu religieux. Je fais pour acheter Dieu, quelque part. Je fais mon sacrifice. Et des fois, nous le faisons par amour. Mais rappelons-nous, tout est accompli. Et j'aime quand l'auteur des psaumes ou dans les proverbes nous rappelle plutôt « Grave ces choses sur ton cœur. Inscris-les sur tes mains, mets-les sur ton front. N'oublie pas, tout est accompli. Tu peux venir à Christ tel que tu es, sans faire semblant, sans te sentir coupable. Tu peux être avec Christ tel que tu es, sans faire semblant, sans te sentir coupable. Et si tu es là ce matin, c'est que tu es dans un cheminement avec le Seigneur, plus ou moins près, ou plus ou moins loin, mais tu es dans un cheminement avec lui. Et je voudrais simplement t'inviter à réfléchir à ça. Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a des conséquences pratiques dans nos relations. Pas besoin de prouver quoi que ce soit auprès des autres. On a tout en Christ. Il a tout accompli. Il a tout satisfait. Vous pouvez imaginer certains comportements, des fois, qu'on peut avoir inavouables dans nos relations avec les autres. Est-ce qu'on on veut essayer de prouver quelque chose, montrer quelque chose? Et là, on nous rappelle que Christ a tout accompli. Alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? T'as rien à rechercher. Tu peux être tel que tu es. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de changer. Mais c'est, la motivation, ce n'est pas pour être accepté par Christ. Et des fois, même tout seul, on se morfond. On se dit qu'on est nul. En moins que rien. Mais Christ a tout accompli. Et tu as déjà tout en Christ. Dieu t'aime comme tu es. Tu peux venir à lui tel que tu es. Et pour finir, je voudrais laisser cette citation de John Stott, encore une fois, sur ce passage. Et il écrit que, dans son essence, le péché caractérise l'homme qui se substitue à Dieu. Tandis que le salut s'opère quand Dieu se substitue à l'homme. Le péché, c'est quand l'homme se substitue à Dieu. Et le salut, c'est quand Dieu se substitue à l'homme. L'homme se dresse contre Dieu. Dieu se sacrifie pour lui, se dépouille et prend la place qui revient à lui seul. À l'homme seul, pardon. L'homme revendique des droits qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et Dieu accepte des sanctions que seul l'homme mérite. Tout est accompli. J'invite à prendre ce temps de silence et puis à chanter un dernier chant après. Tout est accompli. On peut peut-être déjà se préparer.